Bonjour David, bonjour à tous. Grosse frayeur hier à la pharmacie de Saint-Aubin-de-Cloud. Une automobiliste de 85 ans qui sortait de la pharmacie a confondu marche arrière et marche avant sur sa boîte automatique et a foncé sur la vitrine de l'officine avant de terminer dans l'arrière-boutique. 6 salariés se trouvaient dans la pharmacie. L'une d'entre elles, légèrement blessée, a fait un passage à l'hôpital. Sans gravité, en état de choc, la conductrice est allée passer quelques examens de contrôle à l'hôpital également. Un important feu de végétation hier après-midi à Lauré d'Argenton, dans le nord de Sèvres. 10 hectares de lin et d'herbes sèches ont brûlé, de même qu'un kilomètre de haies. Une moissonneuse-batteuse est également partie en fumée. L'action d'une vingtaine de sapeurs-pompiers, aidés par les agriculteurs du coin, a permis de préserver une ferme, une habitation et 50 hectares de végétation. Alors que l'on se dirige tout droit vers une nouvelle baisse des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, les élus de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine ont exprimé leurs plus vives inquiétudes sur l'avenir de cette formation, qui a pourtant fait toutes ses preuves. Le Centre de formation des apprentis régional se revendique comme le premier formateur de Nouvelle-Aquitaine, avec 12 700 apprentis formés en 2023. Or, la réforme de la régulation des subventions aux centres de formation va entraîner une baisse de 5% des subventions selon France Compétences, qui a entériné cette décision lundi. Mais cela peut aller beaucoup plus haut. Selon Gérard Gomez, président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, il prend un exemple concret, celui d'un CAP pâtissier avec un manque à gagner pour la chambre de 700 euros.
On est par exemple à un coût actuel de 7000 euros, grosso modo, qui est versé pour qu'on puisse apporter une formation de qualité à ces jeunes. On passerait à 6300, ce qui, compte tenu du coût de l'inflation, nous fait passer un déficit sur cette formation-là de l'ordre de 18%. Voilà, ça c'est un chiffre qui est parlant. Donc ça veut dire que forcément, ben, il faudra qu'on regarde à peut-être arrêter certaines formations, peut-être fermer certains centres de formation, et puis pour aller chercher des économies, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça à travailler à perte.
Les parlementaires vont être interpellés cet été, sachant que la Chambre des métiers et de l'artisanat dit comprendre les difficultés budgétaires et se dit prête à examiner les situations, mais il ne faut pas se cantonner à une logique purement arithmétique, estime Gérard Gomez.
Il faut qu'ils arrivent à considérer que l'apprentissage dans l'artisanat, c'est un investissement pour l'avenir. C'est pas une charge que l'on a, une dépense comme une ligne d'un tableau Excel d'un budget de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré aujourd'hui dans France Compétences. Et il faut vraiment qu'on travaille avec eux pour qu'ils travaillent avec nous, parce que nous, on a toujours voulu travailler avec eux pour aller plus loin dans cette analyse des coûts. Je rappelle que 80% des jeunes qui sortent de nos formations ont un emploi dans les 6 mois. C'est pas donné à toutes les formations. Et puis, c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire, parce que si demain on est obligé de fermer des CFA qui sont moins sollicités que d'autres, eh bien ça veut dire qu'il y a des territoires qui ne pourront plus former, et un territoire qui ne forme plus, c'est des artisans derrière qui n'ont plus de main d'œuvre, et c'est toute une chaîne qui est en péril, quoi.
Gérard Gomez, président de la Chambre des métiers de l'artisanat en Nouvelle-Aquitaine, à propos de la réduction de la prise en charge des contrats d'apprentissage par l'État. La Ligue des droits de l'homme en Deux-Sèvres organise un rassemblement devant les grilles de la préfecture à Niort ce jeudi entre 16h30 et 17h30 pour la remise symbolique du rapport de l'Inter-Observatoire sur la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars dernier. Ce rapport a été rendu public il y a quelques jours, le 10 juillet, par la Ligue des droits de l'homme au niveau national. Il dénonce l'usage disproportionné des armes par les forces de l'ordre le jour de cette manifestation.
L'avocat Toircet dynamite la navette hélico de Nicolas Hulot.
Maître Thierry Dallet vient d'obtenir devant le tribunal administratif de Nantes l'annulation du projet d'un héliport avec ligne régulière sur l'île d'Yeu. L'avocat Toircet représentait les intérêts des habitants de l'île vendéenne qui craignaient de voir évoluer des vols ponctuels en navette continuelle. Ses explications au micro-colline de Dominique Hérault.
Au début des années 90, le préfet avait autorisé cette activité purement commerciale, gérée par une société privée qui faisait du transport de taxis par hélicoptère. Et petit à petit, cette société a transformé cette activité ponctuelle en ligne régulière de fait. Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, en 2018, et Elisabeth Borne, sa secrétaire d'État ou ministre déléguée au transport, ont décidé d'autoriser la création d'un véritable héliport sur Port-Joinville, créant une ligne régulière de transport par hélicoptère. L'État, en créant cet héliport, a régularisé une situation totalement illégale. Ce projet ne pouvait pas se justifier pour des raisons sanitaires. Les transports sanitaires ne sont pas effectués par cette société commerciale privée qui n'a pas d'hélicoptère sanitaire. Et les transports sanitaires sont effectués par le SAMU aérien. Cet aspect de l'intérêt général n'existait pas pour ce projet.
La petite station hélico se voyait donc validée comme un véritable héliport, sans autre garantie de sécurité, mais avec quelques risques supplémentaires, puisque les décollages et les atterrissages s'effectuaient au beau milieu de la commune principale Port-Joinville, au mépris d'un aérodrome qui n'est distant que de 3 km de là. Pour mettre d'aller, l'étude d'impact avait été parfaitement négligée et l'intérêt général était totalement exclu.
Ces hélicoptères décollent et atterrissent à Port-Joinville, à proximité immédiate des zones touristiques, de parking, des touristes, d'un manège pour enfants, d'un petit train qui circule autour et de bateaux qui mouillent à proximité. Et il y avait une situation assez cocasse puisque la commune qui soutient ce projet avait pris des dispositions très sévères concernant l'utilisation de drones de 300 grammes, par exemple, qui ne peuvent pas être utilisés à moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes ou au-dessus de zones naturelles ou de zones habitées, tandis que cette même commune ne s'est posé aucune question en matière de sécurité et d'impact sur l'environnement lorsqu'il s'agit du projet d'un héliport avec l'atterrissage, le décollage et le survol de Port-Joinville.
Quoi qu'il en soit, les opposants à ces navettes permanentes ont gagné la première partie contre l'État et les hélicos doivent cesser leur va-et-vient. L'État peut faire appel de ce jugement, affaire suivie par Dominique Hérault.
En sport, nous l'évoquions brièvement lundi, Hugo Hay a fait un retour fracassant le week-end dernier sur un meeting en Belgique.
Le Tervais licencié au SBAC a amélioré son record personnel de 8 secondes sur le meeting d'Eusden-Zolder en signant la troisième meilleure performance française de tous les temps sur 5000 mètres avec un chrono de 13 minutes 2 secondes et 62 centièmes. Avec ce chrono, il réalise les minima pour se qualifier aux Mondiaux de Budapest en août prochain et ceux de JO de Paris par la même occasion. Le ticket est donc dans la poche pour la Hongrie. Il faudra encore voir les critères de sélection pour être sûr et certain de disputer les JO en France, mais Hugo a fait ce qu'il fallait dans un jour où les jambes étaient en feu.
Cet samedi là, j'avais des jambes qui étaient vraiment incroyables. C'était vraiment facile, tout était facile. J'avais l'impression de voler, d'avoir de la puissance et vraiment pas de fatigue qui venait. Et ça, il y a eu cette combinaison là des jambes qui étaient là et d'un mental qui était vraiment très bon. Mais là, j'étais dans ce qu'on appelle vraiment l'état de flow, de rentrer dans la zone. Et c'est un état mental où t'as l'impression que tout se passe un peu au ralenti. Tu prends les bonnes décisions, les informations elles viennent à toi et tout se passe en fait facilement et ouais, c'est vraiment une zone où tous les sportifs ont envie d'être et on l'a vraiment pas beaucoup de fois dans une carrière, donc c'est vraiment vraiment grisant comme sensation. Et là, tout s'est passé vraiment super bien et ouais, même les conditions qui étaient pas forcément, à un moment donné j'ai dû vraiment prendre le relais, j'ai fait 3 tours en tête, donc c'est vraiment beaucoup sur un 5000, enfin c'est pas l'idéal et c'est pas grave quoi, j'ai pris les tours, j'y suis allé, j'ai poussé et normalement on s'épuise un peu quand on est en tête et là je continuais à accélérer donc c'est vraiment c'était fou comme sensation.
Des sensations d'autant plus appréciables que ce chrono de 13 minutes et 2 secondes sur 5000 était absolument inespéré il y a de cela 3-4 mois, car Hugo Hay a souffert d'un Covid qu'il a laissé sur le flanc pendant plusieurs mois.
Faut savoir qu'en début avril, je pense que je vais aller à peu près 36 minutes au 10 km, donc un niveau de coureur amateur. Donc ouais, non, on s'attendait vraiment pas à ça au début. Mais non, j'ai pas baissé les bras quand c'était dur et quand vraiment j'avais pas de vision sur le long terme parce que ma santé s'améliorait pas et que je pouvais rien faire et que je voyais des autres qui faisaient des compètes et ouais moi qui était bloqué quoi, mais j'ai pas lâché. C'était forcément une période qui était difficile parce que je me retrouve un peu entre guillemets au chômage, j'avais pas de but dans la vie, j'avais pas de vision sur le moyen terme parce qu'on savait pas à quel moment mon corps allait récupérer du Covid et voilà. Mais en même temps déjà un c'est comme ça et deux se dire je vais continuer à faire les choses au maximum pour que quand je puisse vraiment repartir, je parte du moins loin possible. Donc j'ai continué à être sérieux, je suis pas sorti, enfin j'ai continué à bien manger, j'ai continué à faire des petits exercices que je pouvais faire au niveau de ma prépa physique. Je suis allé marcher quand je pouvais aller marcher, je suis allé faire un peu de vélo quand je pouvais faire un peu de vélo. Donc je suis resté un peu dans cette optique-là de toujours me dire ça va revenir, faut que tu sois prêt quand ça revienne.
Avec ce nouveau record personnel et ses minima, Hugo Hayes s'est mis dans les meilleures dispositions pour préparer les mondiaux de Budapest qui auront lieu du 19 au 27 août.
Je suis pas encore prêt pour les courses de championnat forcément parce qu'on les a pas travaillées. On a travaillé surtout pour faire le meilleur temps possible et donc c'est un peu quelques ajustements à faire à l'entraînement. Donc là, le fait d'avoir un mois pour travailler ça et de pas avoir à se concentrer d'abord sur les France pour valider une sélection et ensuite sur les mondes, ça nous facilite encore la tâche. Donc là, je vais vraiment être concentré sur travailler mon finish et j'ai 3 semaines et demie pour ça et après arriver le plus fort possible au championnat du monde pour cette fois me qualifier en finale contrairement au jeu où j'avais loupé de vraiment pas grand chose.
Hugo Hayes, de retour au premier plan après plusieurs mois de galère, le Tervais a signé, je vous le rappelle, la 3e meilleure performance française de tous les temps sur 5000 mètres le week-end dernier. En football, Guingamp poursuit son marché du côté de Niort. Lenny Vallier, qui était en fin de contrat, va logiquement poursuivre sa carrière en Ligue 2 et retrouver son ancien coéquipier Amadou Sagna. Il retrouvera aussi Dylan Louisère, son ancien capitaine à Niort. Après des soirées magiques dans la vallée de Poupée, le festival prend ses quartiers dans la clairière du Bois Chabot pour 2 soirées XXL. Il y aura Poupée des Rails vendredi, mais ce soir, c'est soirée rap au programme avec Aurel San en tête d'affiche sur scène vers 23h. Début de la soirée ce soir dès 18h. L'ouverture des parkings se fait dès 14h. Vous pouvez prendre vos dispositions si vous ne voulez pas être trop retardé par la foule. On attend 25 à 30 000 personnes ce soir dans la clairière du Bois Chabot.